Radio Spirale. De toute évidence, il se passe présentement quelque chose en cinéma québécois. Les Sébastien Pilote, Maxime Giroux, Sophie Deraspe, Stéphane Lafleur, Anne Aymon et Denis Côté s'imposent comme une nouvelle génération résolument de son époque, mais néanmoins nourrie de toute la grammaire visuelle du cinéma québécois. Pour réfléchir à cette nouvelle génération, l'Observatoire du cinéma au Québec a réuni Gilles Marsolais, Bruno Decken et Guillaume Lafleur. La rencontre était animée par Richard Bégin et elle avait lieu à la librairie Olivieri en février 2012.
Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc à cette soirée causerie organisée par l'Observatoire du cinéma au Québec. Une soirée causerie qui a pour titre « Un nouveau cinéma québécois ». Et là, je pèse le point d'interrogation, puisque c'est un peu aussi la question que l'on se pose ce soir. Y a-t-il effectivement lieu de parler d'un renouveau du cinéma québécois, un nouveau cinéma québécois? Et pour discuter donc de cette nouveauté éventuelle du cinéma québécois, nous accueillons donc ici à cette table Bruno Decken, qui est programmateur associé des RIDM, les Rendez-vous étrangers du documentaire de Montréal, et critique de cinéma pour 24 images. Guillaume Lafleur, qui est directeur artistique d'Antitube et membre du comité de rédaction des Cahiers littéraires Contre-jour, et Gilles Marsolais, bien connu, critique et historien du cinéma, membre du comité de rédaction de la revue 24 images et auteur de Cinéma québécois de l'artisanat à l'industrie. Livre, en fait, le dernier livre de Gilles Marsolais, dont nous soulignons ce soir, par le fait même, la parution. Donc, ce soir, comme je vous disais, la question que l'on se pose et qui est à l'origine de notre soirée causerie, y a-t-il lieu de parler d'un renouveau du cinéma québécois? L'idée, donc, c'est d'une certaine façon aussi de reprendre un peu la discussion qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps lors d'une table ronde organisée par la revue sur les pratiques et les théories du cinéma au Québec Nouvelle Vue. Donc, une discussion sur le renouveau qui a suscité énormément de discussions, de remous, de réponses diverses de la part, entre autres, de certains critiques dont je ne nommerai pas, Georges Privet par exemple, mais j'ai dit que je ne nommerai pas de critiques. Et donc, cette soirée se veut un peu le prolongement, mais ce n'est pas une table ronde prise de. Mais c'est évident que l'on va parler évidemment de tout ce qui tourne autour de la question du renouveau suscité donc par cette table ronde qui est apparue l'année dernière en 2011. Avant de commencer, donc sans plus tarder, je vais céder d'abord la parole à Monsieur Gilles Marsolais, qui est bien placé pour nous parler du cinéma québécois dans son ensemble, puisqu'il est un spécialiste évidemment du cinéma québécois, mais aussi qui va également nous parler de ce nouveau cinéma québécois qui déferle sur nos écrans depuis déjà 3, 4, 5 années. Alors, je prête d'abord la parole à M. Marsolais.
Ah, merci. Donc, évidemment, il est clair que tout le débat ne portera pas sur mon livre. Mon livre est en fait le prétexte pour un débat sur le jeune cinéma ou le nouveau cinéma. Donc, la table étant mise, je vais donc rajouter un couvert avant de rajouter mon grain de sel dans la discussion qui va suivre. Bien, en partant d'une évidence, le cinéma fait partie d'une culture, il en est le reflet. Et cela est particulièrement vrai dans le cas du cinéma québécois, qui est, comme je l'ai déjà écrit il y a longtemps, le sismographe de notre société. Je pense qu'il importe de le rappeler, vu la conduite affligeante de nos politiciens en ce moment, ou du moins de la plupart de nos politiciens, qui se contentent de gérer, avec une belle innocence, je dirais, notre régression collective, que ce soit au fédéral, sur le plan culturel, ou au plan québécois, sur le plan linguistique. Je pense qu'il faut que ce soit dit, il faut que ce soit clair, et j'insiste sur la notion de culture, parce qu'elle est fondamentale par rapport au sujet de ce soir, qui est le jeune cinéma, le nouveau cinéma québécois. Bref, cette culture donc, n'est pas qu'une vue de l'esprit, elle n'est pas qu'un vague concept inventé par des politiciens opportunistes, elle véhicule un ensemble de valeurs propres à une société. Et la culture, pour moi, ça comprend évidemment tous les aspects, aussi bien le cinéma que la littérature, que la sociologie, et même, je dirais, jusqu'à notre façon particulière de faire de la politique, de réagir à une situation politique à un moment donné. Bref, on peut dire que la culture véhicule un ensemble de valeurs de la société et que le Québec constitue à cet égard une société à part entière avec ses contradictions qui la distinguent. Je pense que c'est très important de le rappeler. La culture, donc pourquoi j'amorce sur la culture, c'est tout simplement parce que la culture, évidemment, à la base, implique l'idée de la continuité. Vous voyez tout de suite l'amorce avec le cinéma, le jeune cinéma ou le nouveau cinéma. Donc, évidemment, l'idée de cette continuité, ce n'est surtout pas pour refaire toujours la même chose ou commettre les mêmes erreurs, mais dans l'optique de conjuguer habilement la mémoire collective et les défis de l'avenir, de composer avec l'héritage légué par les aînés pour inventer, justement, une manière d'être, de penser et même de rêver en fonction de la nouvelle réalité de cette société dont elle est l'âme. Donc, rien de moins, rien de plus. Point de salut pour une société culturée ou sans culture. Maintenant, si on se place du point de vue du spectateur, il est certain que l'on est abreuvé d'informations en ce moment, comme jamais auparavant, surtout depuis l'apparition de l'Internet et de ses développements, et on aurait tort de s'en plaindre. Mais on peut assez vite se sentir débordé par cette manne inespérée qui nous arrive dans le désordre, ne serait-ce que pour gérer, pour assimiler cette masse d'informations qui risque plus ou moins à long terme de noyer les repères, les balises pour s'y retrouver. J'entends par là l'histoire du cinéma telle que nous la concevons, aura-t-elle encore la même signification et la même importance que nous lui prêtons aujourd'hui, avec ses repères établis et reconnus par les spécialistes cinéphiles, critiques, professeurs et chercheurs qui détiennent la mémoire du cinéma et qui définissent ce qu'est la culture cinématographique à l'échelle du monde. Et je m'inquiète pour les nouvelles générations donc, qui sont enrichies via Internet par toute cette masse d'informations avec les films qui les accompagnent, mais ils reçoivent tout ça dans le désordre le plus absolu. Et je m'inquiète un peu pour l'espèce d'agencement qu'il s'agit de mettre dans tout ça, d'où le fait, j'ai pensé que ce n'est pas être un dinosaure que de publier sur papier des textes concernant le cinéma, ne serait-ce justement que pour mettre un peu d'ordre là-dedans, quitte à ce qu'évidemment, Internet, on sait qu'Internet va évoluer et qu'il va arriver un jour à autoriser, je dirais, la mise en place de cette cohérence. OK, donc l'idée de ce recueil de textes que j'ai publié vise à rappeler donc cette idée fondamentale de la continuité pour la survie d'une culture, que cette culture soit purement cinématographique ou plus largement sociale. Donc, elle vise à mettre en forme d'estement, si vous voulez, en lumière cette cohérence issue des efforts conjugués des cinéastes qui ont contribué ou participé à la constitution de cette culture cinématographique spécifiquement québécoise. Bien sûr, c'est un tout petit livre dans lequel j'attire l'attention seulement sur quelques-uns des cinéastes marquants. Il y en a beaucoup qui manquent, qui ne sont pas là. L'idée, ce n'était pas de refaire l'histoire du cinéma. Et je mets en valeur, évidemment, le point de vue de ces cinéastes au moyen de longues entrevues où ils disposent de l'espace voulu pour nous faire part de leur stratégie de réalisation et de leur vision de la société, de son avenir. Alors, pour être plus concret maintenant, par exemple, il est intéressant de revenir sur la façon de penser de Francis Mankiewicz alors que, jeune cinéaste, il s'apprêtait à réaliser son tout premier long-métrage sur les difficultés qu'il a dû affronter et comment il a réagi. Alors, d'ailleurs, on peut établir des rapprochements avec d'autres cinéastes comme Olivier Asselin ou Denis Côté à leur début et voir comment ils ont réagi ou comment ils pensent et fonctionnent à leur tour. J'aurais pu, bien sûr, élaborer davantage sur le sujet, mais l'idée, c'était simplement d'indiquer une piste de recherche. Par exemple, on pourrait s'amuser à établir des rapprochements fertiles entre « À tout prendre » de Claude Jutras et « Jaloux » de Patrick Demers, entre « Les bons débarras » de Francis Mankiewicz et « Le vendeur » de Sébastien Pilote, ou encore entre « Nuit 1 » d'Ariane Aymon et « Le chat dans le sac » de Gilles Groulx. A priori, ça semble disparate alors qu'il y a des rapprochements fabuleux, directs qu'on peut établir. Bref, on assiste à quelque chose d'intéressant dans le jeune ou le nouveau cinéma québécois. Il importe d'en prendre conscience et de le souligner. Alors, comme vous le voyez, cette approche qui vise à jeter une passerelle entre le passé et le présent n'a rien de nostalgique. Par ailleurs, malgré les apparences, le cinéma québécois, même le plus récent, celui qui va nous intéresser ce soir, fait référence à la question de l'identité. Il le fait parfois, il est vrai, sur le mode exacerbé du « je » et du « moi », reléguant la dimension sociale à un rôle de second plan. Mais même là, ce dispositif témoigne d'un fait de société, pour ne pas dire qu'il le trahit. Et puis, si on y réfléchit bien, c'était aussi le cas dans notre vieux cinéma, dans « Tout prendre », au moyen de la thématique de l'image récurrente du miroir. Claude Jutras ne parlait que de lui, que de son petit monde, et pourtant, tout dans ce film, jusque dans l'exercice formel, avec sa finale où il endosse le rôle ultime de l'avocat du diable qui nous oblige à une relecture totale du film, tout dans ce film donc nous renvoie à notre réalité contemporaine. Dans un style en apparence plus près du réalisme, mais non moins métaphorique, Francis Mankiewicz s'était risqué lui aussi déjà dès le temps d'une chasse à ce jeu du miroir non complaisant, dans lequel le Québécois était sommé de se reconnaître. Donc, c'est dire combien il importe pour le profit des nouvelles générations de raviver notre mémoire collective en rafraîchissant la mémoire même du spectateur de cinéma. Cela ne pourra que favoriser une lecture plus juste du nouveau ou du jeune cinéma québécois d'aujourd'hui. C'est dans cette optique aussi que j'ai cru bon de faire un rappel synthétique de la tradition documentaire qui a fortement marqué et qui imprègne encore notre cinématographie jusque dans son volet fictionnel. Après tout, les Brault, Jutras, Arcan, Carl et autres sont tous passés par là. Et si elle était évidente au fil des générations passées, on peut observer aujourd'hui encore cette empreinte dans le désir informulé des cinéastes ou dans leur façon de se positionner par rapport à elle. Par exemple, cette obsession traverse tout le cinéma de Denis Côté d'une façon trouble, maladive, diront certains, à tout le moins sur le mode de la mauvaise conscience. Je parle évidemment de le rapport au documentaire dans sa fiction. Alors que Sébastien Pilote parvient, de mon point de vue, dans Le Vendeur, à intégrer parfaitement cette dimension fictionnelle, dans sa dimension fictionnelle, l'héritage de cette tradition documentaire, voire à l'assimiler d'une façon exemplaire et profondément authentique. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais Le Vendeur évoque en moi aussi irrésistiblement les bons débarras de Francis Mankiewicz. Et ce n'est pas uniquement à cause de la présence de Gilbert Sicotte, qui est passé de mécanicien à vendeur de chars, pas plus que l'omniprésence de Naneige ne suffirait à évoquer la vie heureuse de Léopoldselle de Gilles Carle. En 1980 comme en 2010, la question qui traverse chacun de ces deux films, Les bons débarras et Le Vendeur, concerne l'avenir de la cellule familiale, la menace qui plane sur elle, sa destruction imminente. Dans le premier film, Manon parvient à conjurer le sort par ses manœuvres d'encerclement amoureux auprès de sa mère, ou du moins se plaît-elle à imaginer la réussite de son plan. Dans le second film, donc Le Vendeur, Marcel, le vendeur d'auto, assiste à la fin d'un monde, sur tous les plans, à la perte de ses repères et de ses valeurs. Il se retrouve en quelque sorte dans la position du tiers exclu, celle du gros Maurice, en somme. Mais à la différence que, de 1980 à 2010, on passe de l'ironie douce-amère au tragique. Faut-il y voir une métaphore de l'évolution de la société québécoise? Un ange passe. Et ce n'est certainement pas un hasard si « Marécage » de Guy Hédouin aborde lui aussi ce même thème du désarroi et de la décomposition de la cellule familiale. On pourrait tout aussi bien établir des rapprochements dans le temps entre les films au strict plan du dispositif technique et des stratégies narratives. Par exemple, dans « Jaloux », Patrick Demers a repris une idée a priori un peu folle issue des principes du cinéma direct, mais appliqué à une démarche de la fiction, à savoir tourner un film sur le mode de l'improvisation avec une caméra légère. Or, son film qui gagnerait à être connu constitue une réussite étonnante sur tous les plans et il apporte un démenti éloquent à ceux qui, à l'époque, criaient à l'hérésie, à l'impossibilité de gagner un tel pari. Bien qu'il ait été tourné seulement en 16 jours en numérique et en grande partie improvisé, on est frappé notamment par la qualité du jeu des acteurs dans « Jaloux », alors que ce maillon constituait souvent le point faible des tentatives d'improvisation de ce type de cinéma qui l'ont précédé. Bon, il est certain, parenthèse, que l'hyperminiaturisation des appareils de prise de vue et de son par le passage au numérique rend possible aujourd'hui la réalisation des rêves les plus fous partagés par les précurseurs et les adeptes du cinéma direct ou de la caméra stylo, appliqués aussi bien à la fiction qu'au documentaire. La seule limitation aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose à dire et de l'exprimer d'une façon authentique. La richesse et la diversité de la production de ces dernières années nous indiquent que la relève est là, on en discutera, qu'elle existe bel et bien et qu'elle assure la continuité à sa façon. Bien sûr, on pense aussi à un film comme « Le chat dans le sac », dont le rapprochement pourrait être justifié ici, ne serait-ce que pour sa part d'improvisation et son mode de tournage audacieux. Mais je convoquerai ce film « Le chat dans le sac », ce film de Gilles Groult, davantage pour le rapprocher justement du film d'Anémon, Nuit 1, dont il est à mes yeux le pendant exact, le miroir inversé à travers justement son inversion des rôles féminins et masculins entre la tête chercheuse qui s'interroge, qui se pose des questions sur elle-même et sur la société, et son vis-à-vis qui lui apporte la contradiction, qui la pousse à se remettre en question. Vous verrez, on a vraiment l'impression de, vous savez, comme les dessins qu'on fait avec une tache d'encre, on plie la chose et on refait. C'est rigoureusement, pour moi, ces deux films se renvoient comme ça, se regardent dans un miroir. Donc, quête d'identité, disons-nous, oui, on est en plein dedans. Bref, je termine là-dessus, j'ai pris déjà beaucoup trop de temps. Le renouvellement, donc, de notre cinéma se manifeste de diverses façons, mais j'observe que plusieurs cinéastes d'aujourd'hui, plus ou moins consciemment, s'inspirent des expérimentations, des voies ouvertes, voire des façons de faire du cinéma, donc des générations précédentes, non pas pour les copier servilement, mais pour y trouver une source d'inspiration, sans chercher à se conformer au code et au modèle établi. Ils assurent à leur façon, donc, la continuité souhaitée. Alors, voilà, c'était une façon de mettre la table entre mon livre, l'ancien cinéma et le nouveau cinéma dont on va maintenant parler.
Merci, M. Marsolet. Donc, la table est très bien mise, le buffet est servi. Et ce qu'on peut retenir, mais il y a beaucoup de choses à retenir de toute façon de votre intervention, c'est de constater à quel point... On ne peut faire l'impasse sur l'histoire du cinéma, du cinéma québécois plus particulièrement, lorsqu'on veut parler du cinéma québécois actuel. Et c'est un peu aussi l'objectif donc, de cette soirée, de s'interroger quelle est la place du nouveau cinéma, du renouveau du cinéma québécois dans l'histoire même du cinéma québécois. Et donc, on se pose la question du renouveau, de la relève. Qui disait, je ne me souviens plus, s'il y a une relève, c'est que quelqu'un est donc tombé quelque part. Est-ce donc l'ancien cinéma québécois qui est tombé et la relève est là pour le sauver d'une certaine façon, mais aussi il y a les questions liées à les phénomènes de résonance. Quel écho a le cinéma québécois des années 60-70 sur le cinéma d'aujourd'hui? Comment le cinéma québécois d'aujourd'hui permet peut-être de relire le cinéma québécois des années 60, 70, 80 et 90 aussi? Et donc, comment ces nouveaux cinéastes, Denis Côté, Maxime Giroux, Raphaël Ouellette, Stéphane Lafleur, Sébastien Pilote, et on pourrait en nommer plusieurs, jusqu'à Xavier Dolan, Jean-Marc Vallée, Philippe Falardeau, évidemment, on ne peut pas ne pas en parler. Comment ces cinéastes de la mouvée, je reprends le terme de Jean-Pierre Sirois-Trahan ici, comment ces cinéastes s'inscrivent dans l'histoire du cinéma? Et donc, si on a une vision un peu plus large de l'histoire du cinéma québécois, quelle est la place du nouveau cinéma aujourd'hui? Quel est le sens de ce renouveau? Et en fait, la question qui se pose, c'est la question qui tue, comme disent certains. Y a-t-il un renouveau du cinéma québécois? Et si oui, sur quelle base, esthétique ou culturelle? Comme le disait M. Marsolet, il y a un renouveau du cinéma peut-être. À ce moment-là, il y a aussi peut-être un renouveau de la culture au Québec, de nouvelles réalités qui sont mises en scène, qui sont portées à l'image. Donc, comment peut-on juger de ce renouveau? Alors, c'est une question très large, une question dangereuse, et la personne je la poserai tout de suite, Bruno Dequenne.
OK. Comme je pensais que Richard m'avait dit que la conversation allait être improvisée, je ne m'attendais pas du tout à ce que Gilles prépare un extrait de thèse de doctorat pour démarrer la conversation, donc je vais essayer de suivre ça. La question de ce renouveau, ben, comme ça a été mentionné au début, est une question qui a déjà été développée à travers une table ronde qu'on avait organisée avec Nouvelle Vue sur
dont tu étais le modérateur d'ailleurs.
Et l'organisateur. En fait, ce n'était pas organisé par Nouvelle Vue du tout, mais ce n'est pas grave. Non.
OK.
Posteriori, ça a été organisé par Nouvelle Vue.
Non, du tout, c'est l'inverse.
OK.
Oui, mais ce n'est pas très important tout ça. Non, la chose, c'est qu'effectivement, ça fait un moment que les gens ont remarqué l'arrivée d'un certain groupe de jeunes cinéastes. Et Jean-Pierre Sirois-Tran avait écrit un article dans les Cahiers du cinéma sur justement cette mouvée. Il serait très fâché d'apprendre que vous incluez Jean-Marc Vallée, parce que ce n'est pas du tout quelqu'un qui l'inclurait dans cette mouvée. Mais en tout cas, dont on avait déjà parlé dans les pages de 24 images, qui finalement représente un peu le groupe de jeunes réalisateurs qui ont commencé à faire des courts-métrages au début des années 2000 et ont émergé dans la fiction long-métrage à peu près en 2007. 2006-2007. 2007 semble être une sorte d'année charnière, en quelque sorte, pour la simple et bonne raison que c'est cette année-là que, d'un point de vue de visibilité, parce que vous parliez de visibilité, il y avait eu trois films québécois à Locarno, les États nordiques de Denis Côté, film de Bernard Raymond, La Neuvaine, et Familia de Louise Archambault. Et à ce moment-là, ça a lancé cette espèce de nouvelle motivation à envoyer les films dans les festivals. Les trois ont eu une belle visibilité. Denis Côté avait gagné le prix de la meilleure production vidéo dans ce festival-là. Donc, d'un point de vue industriel, quelque chose qui s'est remarqué, c'est l'arrivée, en quelque sorte, de films de festival, en partie. Denis Côté en est le plus grand représentant actuellement. Et autour de Denis Côté, on a associé quelques noms pour des raisons qui sont, d'un point de vue purement pratique, ils ont à peu près commencé à faire les films à la même époque. Il y en a beaucoup qui s'autoproduisent. Denis Côté s'autoproduit, vous avez Sophie Deraspe qui se produit aussi, vous avez Raphaël Ouellet qui également s'autoproduit ou alors est produit par Denis Côté, donc dans un cas comme dans l'autre, c'est quand même assez serré. Et donc on a regroupé plusieurs cinéastes qui semblaient avoir un rapport en termes d'un pur point de vue historique, mais aussi un rapport du point de vue d'une esthétique qui, de façon très générale, a été désignée comme une esthétique rigoureuse, très formelle, avec des préoccupations notamment reliées à la durée des plans supérieure à la moyenne du film commercial québécois moyen. Un jeu sur la narration elliptique, voire très, très épurée. Ceci dit, bon, tout ça, ça a lancé une table ronde sur y a-t-il effectivement une mouvée ou est-ce que ces cinéastes, en fait, font chacun leur truc dans leur coin. Il n'y a pas nécessairement de rapport entre les uns et les autres. Ça a donné lieu à une critique de la table ronde qui a été faite par Georges Privet, comme vous l'aviez mentionné, qui critiquait directement Jean-Pierre Sirois-Tran pour justement essayer de forcer la dose, de mettre plein de cinéastes qui n'ont absolument aucun rapport, ou presque, selon lui, pour des raisons d'autopromotion presque, forcer la dose pour créer une sorte de théorie sur la question. La chose, par contre, est que Georges Privet ne parle pas des arguments de Jean-Pierre Sirois-Tran. Il s'attaque à la rhétorique, plus qu'au contenu de ce qu'il avait à dire sur ces films-là. Et c'est vrai qu'une chose, qui peut être intéressante et qui regroupe plusieurs de ces cinéastes, c'est que, c'est ce sur quoi aussi ils sont attaqués, ce qui me fascine actuellement, c'est qu'il y a, et notamment via le blog de Georges Privet, il y a une opposition qui est en train de s'établir entre le cinéma de 2011 et le cinéma de cette mouvée, mettons 2007-2010 pour faire large, où on célèbre le retour du cinéma social cette année. Et ça, je l'ai entendu beaucoup. Des critiques l'ont mentionné en disant, bon, bah, après des années de formalisme un peu vide, soudainement, grâce aux vendeurs, notamment Monsieur Lazare, un peu aussi, mais c'est pas exactement le même type, pas tout à fait le même type de cinéma, mais on a un retour de préoccupation sociale, et j'avoue que je suis un peu surpris, parce qu'il me semble que les films de cette supposée mouvée, au contraire, sont extrêmement préoccupés par les questions sociales. Une chose, par contre, qui les définit et qui est assez frappante et qui les différencie d'autres films québécois, même de cette époque, c'est, je pense, une approche qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus suggestive, et des films qui n'assènent pas nécessairement un discours littéral sur la question. Quand vous allez voir, vous regardez un film comme Monsieur Lazare, Monsieur Lazare est un film qui est littéral par rapport à son propos, par rapport à l'importance de la culture, par rapport à l'enseignement, etc. Alors qu'un film comme Joe pour Jonathan de Maxime Giroux, dans sa représentation de la détresse de banlieue, par exemple, ne propose pas de discours en tant que tel. Il essaie d'établir une certaine forme d'état des lieux, manifestement, mais on n'a pas du tout la même démarche que des cinéastes comme Philippe Falardeau ou même Bernard Aymon, qui est on ne peut plus littéral. Un film de Bernard Aymon, vous avez à peu près presque tout dans le scénario, en quelque sorte. Je ne dis pas ça de façon négative, c'est plutôt ma façon de voir les choses, alors que un film comme Joe pour Jonathan, il n'y a à peu près rien dans le scénario, donc tout se joue d'un point de vue de la mise en espace, de questions de mise en scène, qui effectivement ont tendance à mettre de l'avant le formalisme, mais je ne pense pas que ce soit un formalisme qui soit apolitique, bien au contraire, je pense qu'il l'est énormément. Par contre, une chose qui est frappante, c'est à quel point un grand nombre de cinéastes, et Gilles mentionnait cette question de l'identité, effectivement, s'intéresse à des figures très isolées. Par exemple, quand j'ai entendu que le vendeur de Sébastien Pilote était une sorte de retour du cinéma régional et amenait une représentation de la région, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça, en fait. Sébastien Pilote est un film qui est centré sur son personnage. C'est un film sur un personnage. Les personnages secondaires n'ont aucune importance dans le film. Ils servent de toile de fond, mais le cœur du film demeure un personnage, et ce qui définit ce personnage, c'est justement son imperméabilité au reste de la société. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans leurs films. Maxime Giroux s'intéresse à des figures très isolées, que ce soit dans Demain, son court-métrage Le Rouge au sol, Joe pour Jonathan. Anne Aymon s'intéresse à deux personnes dans un appartement. Laurency, on ne peut pas faire plus seul que le personnage de Laurency. Il pousse la détresse et la solitude un peu à son point limite. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui relève un peu souvent de l'engourdissement, en fait, de l'engourdissement dépressif, j'ai l'impression. Si on veut parler de la représentation que les films québécois récents, et notamment cette mouvée, font de la société québécoise, c'est vrai que j'imagine un programmateur étranger qui fait actuellement une rétrospective de films québécois d'auteurs des 7 dernières années. Il ne déménagera jamais, il ne va jamais déménager ici. Il va désespérer. Je veux dire, le Québec représenté dans le jeune cinéma québécois, est extrêmement négatif. Et il est extrêmement négatif, mais ce qui le différencie, je trouve, de la génération justement de héritée du direct et de gens comme Groux, Bro, Jutras, c'est qu'il y avait une sorte de... Il y avait une rage, il y avait une espèce d'explosion de vie chez eux, alors que dans les films de la nouvelle génération, on a plutôt la représentation d'une absence totale, d'une incapacité à bouger, d'une incapacité presque ontologique à changer, à se comprendre, et qui est assez frappante. Souvent, je suis assez troublé par ça. Et quelqu'un comme La Fleur, c'est un peu la même chose. Les personnages de La Fleur sont des dépressifs passifs. Et c'est vrai que dans son dernier film, on sent qu'actuellement, il y a une espèce de désir de dépasser ça, en fait, en quelque sorte, dans En Terre Inconnue, notamment, à travers... Mais En Terre Inconnue est assez symptomatique de ça, c'est-à-dire que on a deux personnages, le frère et la sœur, qui sont d'une passivité au-delà de tout entendement, Et la seule action que peut faire le frère pour essayer de changer le cours de sa vie et de celle de sa sœur est de se laisser passivement rouler sur la plate-bande. C'est-à-dire, il va même pas faire ça de façon active, il va tout simplement laisser la voiture s'écraser sur le côté, ce qui est extrêmement beau, mais en même temps, c'est ça, on est encore dans une espèce de... je sais pas, d'embourbement.
Mais c'est ce qu'il y a de frappant dans le cinéma québécois depuis, 2005-2006, de ce qu'on appelle donc la mouvée. Mais je n'y introduirai pas des gens comme Éric Canuel, car là, vraiment, Jean-Pierre Sirotra ne serait pas content. C'est véritablement l'engourdissement. Il y a une faillite générationnelle, on la ressent très bien. Vous parlez de Jour pour Jonathan, c'est un film que j'ai regardé encore récemment. Il y a une condamnation implicite d'une génération au grand complet. Là où je m'interroge, c'est que cet engourdissement, cette faillite, cette désillusion, on l'a retrouvée dans le cinéma, par exemple, de Mankiewicz, lorsqu'on parle des bons débarras. Il y avait dans les bons débarras, cependant, peut-être à la différence de ce qu'on retrouve dans Jour pour Jonathan, dans Curling de Denis Côté, par exemple, une certaine forme de transcendance qui pouvait être interprétée comme un discours politique, un discours social sur le Québec d'aujourd'hui. Est-ce que Et là, peut-être, je prendrais la balle et je la refilerais tout de suite à Guillaume Lafleur. Et ce serait la question, une autre question qui tue, car je dois vous abattre tous. Est-ce qu'il y a de cette du politique aujourd'hui dans le cinéma, dans le renouveau du cinéma québécois? Est-ce que la place du social, de la culture québécoise est aussi importante et explicite qu'elle pouvait l'être dans le cinéma des années 70 et 80, surtout début 80, par exemple?
Merci Richard, c'est une bonne question. J'ai essayé pour répondre à ça de sortir un peu de la cuisine de 24 images et de l'antichambre de Nouvelle Vue. moi j'aurais envie de répondre par la négative, mais peut-être en m'identifiant aux cinéastes actuels comme Mathieu Denis, Simon Lavoie ou Giroux qui parlent beaucoup de l'atomisation des rapports sociaux. L'isolement, c'est ce que Bruno Dequesne vient bien d'expliquer. Ce sont des thématiques qui semblent quand même relativement campées dans des lieux précis. Il y a une image de la banlieue de la Rive-Sud dans Joue pour Jonathan là, qui est certaine, qui a à voir avec une certaine approche documentaire, ou du moins il y a un travail sur la photo et la photogénie des lieux qui contribue à ce qu'on ait quand même accès à ce que on mentionnait tantôt, sismographe de la société. Il y a de ça dans Jour pour Jonathan, mais c'est jamais explicite. C'est jamais explicite au sens où dans les répliques, je pense pas qu'il y aurait tout à coup une épiphanie d'un personnage qui viendrait proposer une thèse ou un remède à la situation. Une thèse à propos de la situation ou un remède à propos de la situation qui nous est représentée dans le film. De même qu'il n'y a pas de figure nécessairement. En fait, si on prend l'exemple de Laurency et Joue pour Jonathan en particulier, pour ceux qui n'ont pas vu Laurency, le personnage principal joué par Emmanuel Schwartz, je pense, déménage, se retrouve à proximité d'un voisin anglophone avec qui il parle peu ou pas. Cependant, il finit par être en dialogue avec lui malgré tout, par la force des choses, puisque c'est son voisin. Et également, il en vient à même essayer de s'identifier à lui, d'être dans une entreprise d'effacement de lui-même pour mieux travailler sa fascination et son voyeurisme pour le voisin. Bon. Donc, ce sont des films qui jouent sur la raréfaction à plusieurs niveaux. Au niveau du discours social, ça passe pas spécialement par les dialogues de façon élaborée. Ça peut passer dans Laurency par des cris, par un certain nombre de murmures vindicatifs dans un bar, ce genre de choses. Dans Jour pour Jonathan, ça s'exprime aussi assez peu. Puis, c'est lié au fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de figure d'autorité forte. Peut-être qu'à ce niveau-là, on peut dire qu'il y a une dimension sociale dans ces films qu'on ne voyait pas dans d'autres films qui ont été réalisés il y a quelques années au Québec. Mais cependant, au niveau thématique, là, de manière plus fondamentale, à la fois au niveau de l'esthétique, le travail sur la durée, le travail sur la thématique de l'isolement aussi, penser en termes de mise en scène cinématographique, ce sont des choses qu'on voyait chez Atom et Goyen dans les années 80. Donc, c'est pas spécialement ou alors, et ça, c'est clairement formulé par Mathieu Denis ou Simon Lavoie, ce qui a trait à Laurency, l'influence de Tsai Ming-liang, qui est très, très importante, qui est représentée de façon très nette dans des films comme Le Trou, comme Rebels of the Neon God, j'ai pas le titre en français, Les Rebelles du Dieu Néon, ce genre de choses, l'isolement, l'atomisation dans les grandes villes sont des thèmes en fait qu'on peut faire remonter jusqu'à Antonioni. Donc ce sont des thèmes assez fascinants aussi si on s'intéresse à la mise en scène, au cinéma, à la photogénie, à la composition des plans, à l'attrait de la lenteur, qui est un attrait presque fatal pour le cinéma contemporain puis pour le cinéma d'auteur qui ces temps-ci, je dirais, dénote pratiquement la volonté d'un jeune cinéaste québécois de se retrouver sélectionné ou de faire partie du Gotha qui se retrouve dans le contingent pour Locarno, ce genre de choses. Donc, on est dans une forme de maniérisme du cinéma d'auteur qui est un peu... un peu risqué parce que ça arrive un peu en retard. Je ne sais pas si dans quelques années, on va voir ça avec le même œil.
Le maniérisme du cinéma d'auteur.
C'est-à-dire que les tendances qu'on voit dans un film comme Laurency, comme Joe pour Jonathan, je mettrais Denis Côté dans une classe à part, comme d'habitude. C'est un cas à part. Me semble suivre une tendance forte qu'on voit chez Celan, par exemple, le cinéaste turc, depuis la fin des années 90, puis qui vient déjà à la suite de films comme ceux de Tsai Ming-liang, par exemple, qui travaille beaucoup sur des plans latéraux, tentation d'associer une dimension contemplative propre à la mise en scène à une atomisation des rapports humains.
Il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma québécois, le plus récent, au niveau des thèmes. Donc, on parle de maniérisme aussi, mais il y a quelque chose qui est là, fréquent, et qui est repris par plusieurs des cinéastes, de Denis Côté jusqu'à Maxime Giroux, c'est la question du lieu. C'est-à-dire que, de plus en plus, maintenant, on retrouve l'action, et là, je mets l'action entre guillemets, de très, très gros guillemets, en banlieue, là où il ne se passe donc finalement jamais rien. Et donc, on retrouve beaucoup donc, de ces grands espaces post-industriels, les centres commerciaux, les gaz-bars, etc. Et c'est quelque chose qui est très fréquent, non pas seulement dans le cinéma québécois actuel, mais dans le cinéma contemporain. Et l'impression que l'on a lorsqu'on regarde un film comme le cinéma de Denis Côté ou Maxime Giroux, encore je reprends Jour pour Jonathan, car c'est celui qui me vient en tête tout de suite, j'ai l'impression de voir un cinéma non pas québécois, mais un cinéma occidental. Contemporain, qui filme les espaces suburbains, les banlieues, de la même manière qu'un cinéaste comme Gus Van Sant pourrait les filmer, par exemple. Et à ce moment-là, la question se pose à savoir en quoi, donc, ce cinéma québécois, qui semble, d'un point de vue stylistique, thématique, s'occidentaliser à outrance, parvient-il à garder de son identité québécoise? Où retrouve-t-on l'identité québécoise dans le cinéma de Denis Côté, de Maxime Giroux, de Stéphane Lafleur, Sébastien Pilote? Mais je ne parle pas d'Éric Canuel ici. Alors peut-être M. Marcellet, oui. En bon historien, serait capable de nous mettre tout cela en perspective.
Oh,
mais oui, c'est
non, je peux essayer. J'aimerais revenir, je vais répondre, mais en revenant, en faisant le détour par une intervention de Bruno, concernant les préoccupations sociales dans ce cinéma, y a-t-il, oui, au-delà du formalisme, des préoccupations sociales, oui ou non? Et moi, la donnée fondamentale que j'y vois, évidemment, c'est qu'on assiste beaucoup, oui, c'est un cinéma terriblement pessimiste, c'est ahurissant. Moi, je fonctionne beaucoup de façon concrète, titre par titre et tout. Prenez Yves-Christian Fournier, Tout est parfait, bon, sur la question du suicide. Maxime Giroux, Joe pour Jonathan, et même Robin Aubert, dont on n'a pas parlé, à l'origine d'un cri et tout. Il allie à la fois la quête d'identité, on voit des gens se promener parmi des morts vivants, littéralement, donc c'est une société de morts vivants, et les gens se débattent à l'intérieur de ça. Et sous-jacent à tout cela, évidemment je ne prenais pas tous les films, sous-jacent à cela, il y a beaucoup, je dirais, un règlement de compte père-fils, qui est fondamental, et là il faut bien comprendre que ces jeunes cinéastes trentenaires sont en fait les fils des baby-boomers vieillissants, qu'ils accusent évidemment plus ou moins clairement, plus ou moins explicitement, mais c'est dans le discours sous-jacent d'avoir évidemment abandonné leur idéal, d'avoir abandonné le projet de pays, entre autres, etc. Or là, on voit qu'il y a vraiment des règlements de compte qui se passent à ce niveau-là, au sein de cette nouvelle génération, qui se retrouve en quelque sorte devant une impasse historique, qui le vit au niveau du « je me moi », mais ce « je me moi » est, je dirais, transhistorique, si on veut, ou en tout cas drôlement bien incarné à travers cette rage, cette impuissance, qui est davantage une révolte qu'un acte, je dirais, d'engagement, comme pouvait l'être le cinéma des années 60-70. Donc, l'idée, c'était de partir de ces préoccupations sociales. Et ce qui ressort le plus, évidemment, c'est, je dirais, il y a le cinéma de la prise de la parole versus le cinéma qui ne prend pas la parole, qui reste au niveau, je dirais, des pulsions, de l'animalité, bon, etc. Et là, j'aimerais prendre, moi, je fonctionne bien avec mes notes, deux films pour les opposer l'un à l'autre. Deux films qui viennent de la même maison de production, à savoir, donc, Laurenci, qui l'a abordé, et Nuit 1 d'Anémon. Autant j'adore Nuit 1 d'Anémon, autant j'ai des réserves sérieuses par rapport à l'autre, par rapport à Laurenci. Et si j'arrive à dire pourquoi, vous comprendrez pourquoi, et vous allez comprendre vite que finalement, la différence entre les deux se situe justement au niveau de la prise de la parole. Autrement dit, pour simplifier à l'extrême, la prise de la parole permet finalement, je dirais, de se sortir, propose une issue à ce lieu sans impasse, alors que ceux qui vivent évidemment leur rage au niveau de la non-parole, évidemment, restent bloqués dans leur rage et ça reste là, ça ne va pas plus loin. Alors, commençons par Nuit 1 d'Anémon. Bon, par exemple, l'image qu'il donne évidemment d'une génération est effectivement terriblement noire, ça c'est sûr. C'est évidemment la génération des trentenaires qui, dans un premier temps, bien sûr, on peut penser, voilà des gens, une génération très centrée sur elle-même, qui donne l'impression, évidemment, de vivre une adolescence attardée qui se prolonge indûment et de parcourir, je dirais, de percevoir le monde, la société, simplement à travers le prisme du « je me moi ». Donc, on a vraiment l'impression d'un univers très borné. Et ce sont, hélas, bon, il faut bien le comprendre, les enfants des baby-boomers et probablement les premiers représentants de la génération de l'enfant roi. Donc, celui à qui on n'a jamais rien refusé, qui a tout eu, qui pouvait discuter, tu veux un verre d'eau, oui, on va discuter, de quelle taille, bon, etc. Donc, ces gens-là arrivent et donc, ils ont vécu, je dirais, dans un univers protégé. Évidemment, on schématise, là. Tout de suite, vous avez des images qui viennent pour contredire ça. Mais ils se retrouvent finalement, je dirais, désemparés lorsqu'il s'agit d'affronter la vraie réalité, de prendre à bas le corps la vraie vie qui n'est pas drôle, qui suppose évidemment une lutte de tous les jours, de tous les instants. Et si on résume, j'ai dit évidemment qu'il y avait un rapprochement entre le chant dans le sac de Claude Jutras. Claude Jutras, c'était ça aussi, c'était lui et elle qui dialoguaient. Lui, évidemment, la grande différence évidemment avec aujourd'hui, c'est que lui, Claude, dans le film, se posait des questions, interrogeait la société, etc., alors que Barbara, dans son miroir, semblait évidemment s'intéresser seulement à son maquillage, à des choses futiles, elle étudiait le théâtre, etc., et de ne pas trop se préoccuper de la société. Alors qu'en réalité, évidemment, elle servait donc de faire valoir, elle l'obligeait en quelque sorte à pousser plus loin sa réflexion, son questionnement. Or, dans ce film-ci, c'est rigoureusement la même chose qui se passe, mais à l'inverse. Cette fois-ci, évidemment, c'est lui qui sert en quelque sorte d'avocat du diable, de repoussoir. Donc, lui, évidemment, qui, comme elle, est d'origine étrangère. Elle était, bon, d'origine juive, anglophone, etc. Lui, évidemment, on voit qu'il est français, d'origine russe, sans doute, évidemment, ukrainien, est-il dit dans le film, non, mais on soupçonne, là, on peut fabuler, qu'il était de famille russe, ukrainienne, vivant en Ukraine, donc, avec tous les problèmes que ça suppose, etc. Bref, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'il est d'origine étrangère et qu'il apporte à elle, évidemment, la contradiction constamment. Évidemment, les deux, évidemment, ne semblent intéressés au départ qu'à multiplier les baises et à parcourir les rêves, etc., les parties, tout ce qu'on veut. Donc, voilà deux personnages qui nous semblent parfaitement futiles, alors que progressivement, par la prise de la parole, le film n'est que parole, bien là, on va voir une évolution fulgurante et on va voir évidemment la jeune fille à la fin qui va finalement s'en sortir, évidemment grâce à son amour de la poésie. Mais il y aura eu tout un cheminement à travers ça. Donc, elle, à ce moment-là, je dirais, la parfaite illustration au départ de l'ère du vide. Mais ce qui est très important, évidemment, c'est que l'essentiel du film, évidemment, se déroule à un autre niveau que cette anecdote. Donc, de la rencontre de ces deux gens, de ces deux personnes, et tout se passe donc au niveau du dialogue. Et en fait, ce n'est pas un dialogue, ce sont plutôt deux monologues qui cheminent en parallèle sans jamais vraiment se rencontrer, mais il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Donc, ça, l'allusion, évidemment, au pays qui se cherche, à un pays en détresse, il est là, on n'a pas besoin de creuser, ça n'a pas besoin d'être dit en voix off, ça n'a pas besoin d'être surligné, tout est là. Si on prête attention à ce qui se passe dans ce faux échange, enfin dans cet échange qui n'en est pas un, mais qui en devient un, ben c'est ça. Donc, voilà donc des personnages qui, dans un film qui utilise beaucoup la parole et c'est l'importance. Au contraire, donc, si vous voulez, Laurency est un peu le contraire de Nuit 1, c'est-à-dire que le personnage, lui, ne se pose pas trop de questions. Il vit, pour lui, il vit évidemment sa rage au niveau de la rage et je dirais que ça s'arrête là, même s'il consulte de façon compulsivement une anthologie de la poésie. On n'y croit pas trop, ça ne cadre pas tellement. On dirait que ça correspond plus à une astuce de scénarisation qu'à une réalité. Et le personnage est à la limite de l'autisme, de la schizophrénie. Il n'a aucun échange digne de ce nom avec son entourage, avec les gens qu'il croise sur sa route. Il ne formule aucune question, il ne remet rien en question, donc il est juste enragé. Alors là, moi, le problème que j'ai avec ce film-là, c'est si le réalisateur a voulu simplement illustrer le cas d'une pathologie passagère ou non, le film ne me pose pas trop de problèmes. Donc même malgré sa fin prévisible, on peut en bon spectateur être sensible à la tension qui l'habite, une tension réelle qui l'habite, notamment lorsque le personnage se glisse dans l'appartement du voisin, l'étranger, assimilé évidemment à l'anglophone. Là, oui, il y a quelque chose qui se passe, ou s'il y a un parti pris audacieux au niveau des longs plans séquences et tout ça. Ça, j'ai aucun problème avec ça, je reconnais que ça, c'est là. Par contre, la force de Nuit 1, justement, venait du fait que les personnages évoluent à travers leur confrontation ou à travers leur dialogue en parallèle. Donc, il y avait un personnage au départ et il y a une évolution. De la même façon que dans Le chat dans le sac, il y a une évolution très forte comme ça des deux personnages jusqu'à la fin. Et évidemment, tout cela à travers un questionnement sur la culture, la tradition, l'héritage, etc., la filiation. Par contre, je veux dire, si, pour revenir à Nuit 1, si le réalisateur, lui, prétend faire de son personnage un cas de figure pour illustrer un fait de société plus large, à savoir, donc, je dirais, l'extrême droite associée au nationalisme québécois, parce que ça revient à ça, avec les petits drapeaux qui flottent partout dans chacun des plans, là, il y a un gros problème. Il s'agit pour moi à ce moment-là d'un acte manqué. Dans la mesure où, évidemment, il procède beaucoup à l'utilisation de la littérature pour donner de l'épaisseur à son personnage par le biais de la voix off et par le biais des intertitres. Sauf que pour moi, ça reste un discours plaqué. Autrement dit, pour moi, la question linguistique, parce que tout est question de... Sa rage se situe uniquement au niveau linguistique. Or, vous n'avez pas à me convaincre qu'il y a... J'ai commencé mon intervention tout à l'heure avec ça. Il y a un problème linguistique réel au Québec qui met en survie, en question notre survie collective. On s'en rend pas compte parce qu'on est dans l'aisance et tout, mais le problème est réel en ce moment. Il ne faut pas aller loin sur Sainte-Catherine ou dans certains quartiers pour le savoir. Mais pour moi, on ne peut pas ramener cette question collective simplement à un problème d'envie ou de jalousie ou de peur de l'autre, exactement comme le fait Simon Lavoie dans son film. Son personnage n'est que envieux par rapport à ce voisin qui vient d'arriver. Il est presque jaloux donc, des parties rêves qu'il organise et il a comme une peur, sa voix dans son visage. Toute la mise en scène tourne autour de cette peur qui est dramatisée, bon, etc. Ça fonctionne très bien, mais c'est au niveau du contenu que j'ai un gros problème à ce niveau-là. Et on est très loin à ce moment de la description que fait Vallière, puisqu'on parle de littérature, que fait Vallière, par exemple, dans Nègre blanc d'Amérique, où Vallière nous explique les raisons, évidemment, de son engagement. Donc, c'est un livre qu'il a écrit en prison. Il nous dit, voici pourquoi, moi qui ai vécu à Ville-Jacques-Cartier, pourquoi je suis non seulement enragé, mais j'ai décidé de devenir militant. Donc, on est loin de la simple réaction pulsionnelle de l'animal qui ne peut pas sentir un anglot puis fait un anglot en peinture. Et incidemment, donc, si on relit Nègre Blanc, on comprend tout à coup pourquoi André Forcier s'intéresse tant à Côteau-Rouge, comme par hasard, quartier de l'ex-ville Jacques-Cartier, qui est aujourd'hui Longueuil. Donc, vous voyez qu'il y a des liens dans tout le cinéma québécois avec la littérature, et ça n'est pas gratuit. Donc, quand Forcier me parle aujourd'hui de la solidarité, mes frères, dans Côteau-Rouge, bien là, wow! Il y a tout un pan de la littérature qui revient vers moi, qui me convoque, qui me dynamise, je ne trouve pas le mot, là, au contraire de Laurenti, qui, lui, me démoralise, me démobilise. Et donc, autrement dit, le film, pour moi, pose, pour finir avec ça, un problème de point de vue. Pour moi, le point de vue qu'il propose, c'est le point de vue des années 50. C'est vrai que, donc, autrement dit, le gars qui se masturbe à longueur de plan, à longueur de film, on comprend, bien sûr, pour traduire une impuissance stérile et d'exclusion, ce qui est beaucoup plus grave à mon goût, ça nous renvoie à une image des années 50, 40-50, telle que notre génération l'a vécu par rapport aux anglophones où tout est en anglais, où on se faisait vraiment traiter carrément de nègre, c'était le mot, donc d'où le titre « Nègre blanc d'Amérique » de Vallière. Donc, ce Québec-là n'existe plus. Il y a effectivement un vrai problème linguistique qui risque de naufrager le Québec, mais il faudrait aborder ce problème-là, je dirais, avec la problématique d'aujourd'hui, avec la façon qu'ont les gens de le vivre aujourd'hui, qui est beaucoup plus rationnelle. La façon aujourd'hui de l'aborder, c'est évidemment de dire que le problème linguistique est un problème de droit qui repose sur des notions de respect et d'affirmation de soi et de prendre les moyens correspondants pour y parvenir. Alors pour moi, Laurenti, désolé, mais ça passe mal, alors que... Laurenti, alors que Nuyen, lui, oui, justement, parce qu'il élève le débat par la prise de la parole, bien là, il gagne complètement la partie. Voilà.
Je sens que Bruno a quelque chose à ajouter.
Bon, avant de revenir sur la question de Richard, à laquelle tu n'as pas répondu, la question non, du non. lieu, en ce qui concerne Laurenti, j'avoue que l'interprétation me surprend un peu, étant donné que... Le propos du film n'est certainement pas de proposer un modèle à suivre, ça c'est définitif. Et il me semble que la question linguistique n'est pas tant présente que tout simplement l'absence de projet collectif actuel qui fait de l'identité québécoise, qui amène l'identité québécoise dans une impasse, parce que si elle ne peut être définie que via la haine de l'autre... À ce moment-là, on touche le fond. Et le personnage de Laurenti est à propos de ça. Une chose qui est frappante, parce que, bon, on parlait effectivement de certains thèmes qui étaient récurrents et même assez peu originaux, mettons la solitude urbaine ou quoi que ce soit, comme tu le mentionnais, dans le cinéma québécois contemporain. Une chose qui me frappait aussi récemment, c'est... Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de ces cinéastes ont en commun. C'est l'absence de volonté de créer une identification du spectateur au personnage. Ça, c'est très frappant dans les films québécois récents. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, la plupart des personnages du déclin de l'Empire américain, je veux dire, même le personnage principal est, bon, grosso modo, en partie un enfoiré, mais... charmant, verbeux, séduisant, rigolo par moments, etc. De même que bon, les bons débarras, on en parlait tout à l'heure, elle est extraordinaire cette fille, c'est un personnage qui nous reste en mémoire. Si quelqu'un peut mentionner un personnage de film québécois récent qu'il a aimé dans ce type de cinéma, c'est extrêmement dur. Maxime Giroux est celui qui va peut-être probablement le plus loin, parce que ces personnages sont absolument...
C'est symptomatique et c'est symptomatique et intéressant à la fois. En fait, tout ce qui est symptomatique est intéressant. Mais de voir à quel point des personnages, comme dans Les Bons Débarras, mm-hmm. dans Le Déclin de l'Empire américain, tout personnage est figure de quelque chose. Et ces personnages-là sont des figures collectives. Et c'est l'une des raisons pourquoi mm-hmm. on s'identifie énormément à ces personnages-là. Et c'est étonnant de voir que dans une cinématographie de la prise de la parole, lorsqu'on regarde le cinéma de Pierre Perrault, c'est ça, c'est donner la parole aux gens et de par cette parole-là, le spectateur puisse s'identifier à ces personnages, mais aussi à la collectivité. Aujourd'hui, nombre de personnages, justement, n'épousent aucune collectivité. Ce sont des personnages tristement individuels. Et ça, justement, n'est-ce pas symptomatique juste d'une forme de désabusement du collectif québécois actuel?
À ce niveau-là, peut-être je répondrai en disant que les cinéastes, que ce soit Anne Aymon, les réalisateurs de Laurency, Maxime Giroux, Stéphane Naflard ne baissent pas les bras en tant que cinéastes, puisque justement ils ont fait le choix, bon, peut-être qu'on pourrait exclure un peu Anne Aymon, mais ils ont fait le choix de prendre une posture de metteur en scène assez radicale, de telle sorte que nous, comme spectateurs, on n'a pas accès à l'identification. Et qu'est-ce que ça fait lorsque des cinéastes parlent de leur société en n'offrant pas cet accès à l'identification? Ben ça suppose un sens de la distance dans la mise en scène qui fait en sorte que nous, comme spectateurs, si on veut suivre le point de vue du cinéaste, si on veut quand même aller jusqu'au bout de l'expérience que nous propose le film pendant 2 heures, ben on doit faire un peu de travail. On doit entre autres accepter que tout à coup, on nous montre un tableau où les acteurs ne sont pas combatifs, énoncent pas des choses à notre place, et d'une certaine manière, le spectateur a la parole. Il a le droit de dire « Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il ne se remue pas un peu? C'est insupportable, cette situation. Bon, » dans le cas de Laurency, c'est un film où, à certains moments, comme spectateur, on est face à des scènes assez pénibles, où on aurait le goût de se débarrasser du personnage. À la limite, comme spectateur, on est aussi mis dans une position assez sadique, un peu impérial, qui est assez inédite peut-être dans l'histoire du cinéma québécois. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une proposition de cinéaste assez courageuse qui donne beaucoup de liberté aux spectateurs et une liberté de penser.
Mais ça explique aussi le fait que ces cinéastes qu'on regroupe, on peut dire, mettons, Denis Côté, Raphaël Ouellette, Maxime Giroux, n'ont certainement pas le succès en salle d'un Xavier Dolan, qui, du point de vue de cette mouvée, est à peu près aux antipodes. Le succès de Xavier Dolan est, bon, de un, probablement assez unique dans l'histoire du cinéma québécois à date, à ce point-là, si jeune, si tôt. Bon, ça s'explique par plein de facteurs, notamment le fait qu'il est une célébrité médiatique à partir du moment où déjà il apparaît dans ses films, donc ça facilite aussi. Mais c'est vrai que J'ai tué ma mère ou Les Amours imaginaires proposent des personnages plus truculents, plus faciles à accepter pour le spectateur que le personnage des États nordiques. Ça joue un rôle assez grand dans les différenciations entre ces types de cinéastes. Pour la question du lieu dont vous parliez tout à l'heure, cette occidentalisation éventuelle du cinéma québécois, j'avoue que je suis pas... J'ai l'impression que là, par contre, on regroupe vraiment beaucoup de choses qui sont très différentes dans un même paquet. Parce que, bon, au contraire, ce qu'on observe quand même depuis des années, c'est ce qui est frappant chez beaucoup de jeunes cinéastes, c'est leur tendance à aller filmer chez eux. Pas chez eux actuellement, d'où ils viennent. Maxime Giroux, il filme pas la rive sud, il filme la rive nord, il filme Laval, parce que c'est là où il a grandi. Stéphane Lafleur, lui, va filmer la rive sud, à l'inverse, parce que c'est là où il a grandi. Raphaël Ouellette continue à faire ses films à Desjely. Vous avez Sébastien Pilote, assez symptomatique, qui va aller, qui veut rester dans sa région, il veut continuer à faire ses films.
Il tourne à Longueuil, à l'occasion, dans Carcasse.
Ouais, mais disons que, mais Denis Côté, on est dans un type de cinéma dont le rapport au réel est déjà beaucoup plus poreuse, de un. Et puis bon, mais c'est vrai qu'il y a il y a le retour de la nordicité qui est assez frappante à travers En terre inconnue, c'est un film profondément québécois, dans sa représentation de la banlieue enneigée, de ces petits vendeurs d'auto d'occasion qu'on a tous vus avec le petit bonhomme, la caricature presque rendue là, pas la caricature mais le cliché du chalet. Là on est retour années 80, on va toujours finir par aller dans un chalet à un moment donné. Vous avez la même chose dans le vendeur, c'est pareil, je veux dire, il insiste beaucoup là-dessus. Le vendeur en plus c'est marrant parce que moi, ma belle famille vient du coin, elle vient du lac, et ça a été tourné dans leur ville, la ville, à Dolbo. Et je leur disais, je parlais à mon beau-frère, je disais, est-ce que t'as vu le tournage? Est-ce que t'as vu? Il dit, oh, ça a été des emmerdes parce que l'hiver est plus ce qu'il était, hein, donc on n'avait pas assez de neige, ils ont ramené les camions, ils ont foutu de la neige, c'était complètement artificiel, on n'avait plus de neige à Dolbo au moment où ils ont tourné, donc c'est un peu le Il y a la volonté de représenter aussi cette espèce de quelque part, de cliché de l'hiver québécois. Et après, c'est vrai que les banlieues plus anonymes, à la limite, c'est peut-être presque uniquement chez Maxime Giroux, en fait, en quelque sorte. Parce que même chez Sophie d'Eraspe, Québec, la ville, est très présente dans les Sin Vito. Donc c'est pour ça que je suis pas sûr là de cet aspect de l'occidentalisation. Et puis après, bon, en termes de style, ils adoptent une certaine lenteur qui est, mais encore que là, tout est relatif. Ça dépend de quoi on parle quand on parle de lenteur. Dire un film, même récemment, je dirais Bestiaire de Denis Coté n'est pas lent. Si vous regardez la longueur de ses plans individuels, n'est pas particulièrement lent. Souvent, je me demande aussi...
Il y a un goût de la contemplation, on pourrait le dire comme ça. Il y a un goût de la contemplation, on pourrait peut-être le dire comme ça.
Mais elle est faite tellement différemment, dépendamment des réalisateurs. C'est-à-dire...
Absolument, mais le problème, c'est le thème de cette journée, de cette soirée.
Oui.
Est-ce qu'il y a un nouveau cinéma québécois? Essayer de trouver des thèmes.
C'est ça.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les cinéastes se parlent entre eux. S'entendent. C'est un peu moins le cas dans une génération antérieure.
Je ne serais pas prêt à dire qu'ils s'entendent tous, là, et très, 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 très loin de là, en fait.
Ce qu'on peut en retenir, en fait, c'est qu'il y a quand même une certaine forme de difficulté à trouver quels seraient les signes, les figures permettant de lier entre elles toutes ces cinématographies-là, permettant de donner une définition claire et précise de ce qu'est donc le nouveau cinéma québécois aujourd'hui. Bon, je parlais d'occidentalisation. Non, peut-être pas. Nordicité, peut-être. Dans une certaine mesure, Denis Coté a préfiguré le plan Nord. Tant mieux pour lui. Mais je me permettrait de jeter quand même un pavé dans la mare et de parler d'Éric Canuel ou Pods ou certains autres, parce que je vous rappellerai qu'il y a quelques années seulement, ça doit faire 4 ou 5 ans, plusieurs critiques vantaient ce nouveau cinéma québécois qui s'ouvrait enfin au genre. Et lorsqu'on parle de ce renouveau du cinéma des côtés Giroux et compagnie, ce sont tous des cinématographies qui, de mon point de vue, évitent la question du genre. Et je me demande pourquoi. Parce que lorsqu'on regarde le nouveau cinéma allemand des années 70, par exemple, on parle de Fassbinder, Wenders, Schreiter et compagnie. Wenders faisait du road movie, Schreiter faisait un peu de fantastique, horreur d'une certaine façon, et n'avait pas peur donc d'utiliser les genre populaire. Alors que je remarque une certaine forme de frilosité dans la nouvelle génération à utiliser genre populaire. Peut-être que je me trompe. Je te vois, pas opinion du chef, mais le contraire.
Je suis pas certain. On a Stéphane Lafleur qui joue de façon ironique avec la science-fiction dans Terre inconnue. Le genre, de toute façon, même le genre, par exemple, de l'horreur du western est présente dans beaucoup de films de Denis Coté. C'est quelque chose qui est... mais je veux dire, ils font pas des films de genre en tant que tels, mais d'un autre côté, les genres sont présents, il me semble, dans un certain nombre de leurs films.
Il y a certains codes du genre qui sont utilisés, mais sans que soit totalement assumé l'idée du genre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un western de Denis Coté. Il y a les codes western.
Pour les Français, Elle veut le chaos
est un western.
Et Rio Bravo, revu par je ne sais plus qui, mais... Donc ça dépend de quel point de vue on se passe, effectivement.
C'est pas plus ou moins un western que Whitey de Fassbinder, hein, qui était quand même extrêmement décalé, ou Schroeter, qui était peut-être effectivement un mix entre Nosferatu, dans le cas de certains films, et Andy Warhol, mais Andy Warhol était très présent aussi, donc ça faisait en sorte qu'on pouvait pas être vraiment dans une sorte de dommage à Murnau.
Mais parlons aussi du style, parce que c'est quelque chose, c'est une discussion qui était devenue très récurrente dans la table ronde qui avait eu lieu l'année dernière, où Jean-Pierre Sirois-Trahan faisait bien la distinction entre un cinéma de l'image des années 80, très clippé, le cinéma de Villeneuve, Manon Briand et compagnie, et un cinéma de la mise en scène aujourd'hui qui serait moins porté justement sur l'esthétique du vidéoclip. Est-ce là où on peut retrouver quelque chose de différent qui se démarquerait du cinéma québécois des années 80, des années 70, des années 90, la question de la mise en scène, le refus de l'image, du clip, parce que de mon point de vue, lorsque je regarde un film de Denis Côté, par exemple, Carcasse, par exemple, il y a un maniérisme stylistique évident. On est quand même dans une sensibilité à l'image davantage que de la mise en scène, de mon point de vue. Donc, est-ce que vraiment qu'il y a quelque chose dans la mise en scène aujourd'hui qui se démarque de ce qui se faisait avant? Ce sont des questions dangereuses, terrain glissant. Et je crois que M. Marcellet avait quelque chose... Oui.
Je pense que c'est difficile de parler de tout ce groupe qui est tout sauf homogène. T'sais. Et tu mentionnais tout à l'heure l'extrême... l'écart considérable qu'il peut y avoir entre Xavier Dolan et d'autres cinéastes, comme ne serait-ce que notre ami qui a fait Nuit 1, pas Nuit 1, mais Laurenci. Bon, par exemple, ce que j'aime, moi, chez Xavier Dolan, c'est la façon, je dirais, que les personnages prennent possession de l'espace vital qu'il y a autour d'eux. Ça, c'est aussi d'une relation de mise en scène, problème de mise en scène. Il y a là, je dirais, ces personnages, ça va avec le réalisateur aussi, les personnages prennent, je dirais, leur place dans l'espace vital, avec désinvolture, sans complexe, même avec un humour frondeur, si on veut, tout en étant conscient, tout en nous faisant comprendre de façon complice que tout ça n'est qu'un jeu, vanité, pure vanité, frivolité, etc. Au contraire, de justement, dans Laurenci, tu disais tout à l'heure que la question linguistique n'est pas importante. En fait, elle est fondamentale parce que le personnage, justement, il y a une séquence à un moment donné où le voisin anglophone est avec son cellulaire sur le balcon et il parle un peu fort, il est vrai. Or là, vraiment, la réaction du personnage, c'est justement de se sentir envahi, de sentir que son espace vital est occupé. Et là, il devient encore plus... il pète les plombs carrément. Donc là, cette relation est importante. Donc, autant, pour moi, je dirais que Xavier Dolan, je le classe carrément dans une nouvelle génération qui apparaît, qui vient d'apparaître, qui est la fin de quelque chose, qui est nouveau. Donc, il faudra voir beaucoup tous les courts-métrages qui ont été faits par les très, très jeunes cinéastes, quelque chose que je connais très mal, et j'ai l'impression que ça annonce quelque chose qui vient, ou bien c'est simplement un cas d'exception. Mais pour moi, il y a, je dirais, en même temps, il y a une sorte d'ouverture, de lumière, de rapport à l'espace chez Xavier Dolan. Évidemment, bon, indépendamment de la qualité, de l'appréciation qu'on peut porter globalement, la question n'est pas là, par rapport à cette génération dont on parle, qui finalement est assez circonscrite. C'est ça. Donc, c'est simplement ce que je voulais amorcer là-dessus.
Est-ce que je crois que Bruno ou Guillaume avaient quelque chose à ajouter?
Ah ben, pour l'anecdote, ça peut être intéressant de souligner le fait, comme Gilles Marcellin insistait pour comparer Nuit numéro 1 et Laurenci, en distinguant les deux, entre autres en ce qui concerne l'importance accordée à la parole dans Nuit numéro 1, qu'il y a une version antérieure que j'avais eu l'occasion de lire de Laurenci, qui s'appelait « C'est donc ça nos vies », qui est un film finalement qu'ils n'ont pas fait. Ils en ont gardé simplement une partie qui est devenue Laurenci, autour du personnage principal de Laurenci. Mais c'était une sorte de film qui se voulait presque un tableau générationnel, la vie trash, avec des plans beaucoup plus contemplatifs. Quelque chose comme ça. Mais, donc, un point de vue de groupe avec énormément de dialogue et beaucoup d'intentionnalité aussi, je pense, des cinéastes en ce qui a trait à leur velléité de représenter une époque, une génération passée dans les dialogues, et ça a complètement disparu. Il y aurait toute une histoire à faire qui serait intéressante sur les films qui ne se font pas. Est-ce que le film Laurenci est la conséquence d'un état d'esprit dans lequel se trouvent les cinéastes qui l'ont réalisé, ou est-ce pas simplement un pis-aller? Et après, on fait des interprétations sociologiques sur le tout. Est-ce que le prochain film Mathieu Denis et Simon Lavoie, bon, ils vont faire des films, je pense, chacun de leur côté, va plutôt témoigner d'un... En tout cas, dans le cas de Simon Lavoie, il adapte Le Torrent d'Anne Hébert, donc certainement une volonté d'aller plus fortement dans la dramaturgie, dans le littéraire, même si ça ne passera pas nécessairement par les dialogues, parce que je crois que ça ne dialogue pas tant que ça dans Le Torrent. Ça reste à voir, mais ce qui est clair, c'est que il y a peut-être une manière, autant il y aurait une histoire du cinéma à faire à propos du cinéma québécois à faire à propos des films qui se font pas, autant il y a des chemins de traverse intéressants pour peut-être sortir de cette question qui est parfois un peu univoque du cinéma national, que je comprends bien la légitimité de cette question-là dans les années 60, je comprends bien la nécessité de cette question-là. Mais lorsqu'il y a un discours historique qui vient chapeauter le tout, je peux avoir des problèmes, surtout s'il s'agit de focaliser pour le cinéma documentaire, parce que c'est assez arrangeant. Entre autres dans le rapport à l'autre, puisque le cinéma documentaire, c'est un peu la forme avec laquelle l'école française de l'ONF a eu plus maille à tirer, puis beaucoup de choses à dire. Mais on oublie qu'il y a des chemins de traverse qui nous mènent jusqu'à aujourd'hui, puis qui ont à voir, entre autres, avec les relations ambiguës qu'ont entretenu tout le temps les cinéastes avec les plasticiens et les cinéastes expérimentaux aussi. Il y a une tradition du cinéma expérimental au Québec qui est essentielle puis qui se rend jusqu'à nous. Et il y a des effets d'écho entre la fiction plus traditionnelle et le cinéma expérimental. Le cinéma expérimental, le cinéma d'animation, fait par des anglophones, fait par des francophones, est partie prenante de l'histoire du cinéma québécois. Faut en tenir compte. Et donc, il y a une jeune génération en ce moment... passionnante, anglophone, francophone, québécoise, Eduardo Menz, Carl Lemieux, autour du groupe Double Négatif, dont il faudrait tenir compte, je pense, si on veut parler du nouveau cinéma québécois, parce qu'il y a des chemins de traverse qui se font. Puis pour comprendre, par exemple, Bestiaire de Denis Côté, il faut peut-être mettre ça en dialogue, puis essayer de sortir du récit national.
Ça prouve une chose, en fait, c'est que la complexité de la question du renouveau fait en sorte que ça ne se limite pas qu'à 5-6 figures de cinéastes. Ça va beaucoup plus loin. Et puis, oui, il y a la question du cinéma expérimental, de l'animation, du documentaire. Et, ben, en fait, pour mieux rendre compte, peut-être, justement, de la complexité, de la richesse que suscite un tel sujet, cher public, vous aurez remarqué qu'il y a un micro. Donc, si vous avez des questions à poser, eh bien, à ce moment-là, je vous inviterai à le faire. Donc, je ne sais pas si parmi vous, des gens auraient des questions, des commentaires à émettre, des questions à poser ou quoi que ce soit. Alors, s'il n'y en a pas pour l'instant, eh bien, je prendrai la parole. Ah, je crois que M. Marcellet...
Une autre provocation.
Oui, allez-y, M. Marcellet. Provoquez.
Non, en rapport toujours à la relation d'espace. Donc, parce que la question a été posée par le fantôme qui plane au-dessus de nous, Jean-Pierre Sirois-Trahan. À savoir, Denis Côté est-il, oui ou non, un cinéaste de l'enfermement? Autrement dit, oui, c'est ça, tu sais, autrement dit, dans ses films, constamment, est-ce que ces personnages ne sont pas toujours prisonniers d'un lieu ou parviennent-ils effectivement toujours à s'en sortir? Y a-t-il une issue toujours dans ces films? T'sais? Je ne sais pas si y en a, vous avez vu suffisamment de ces films, mais la question a été posée. Et elle mérite, je crois, elle fait partie des questions qui doivent se poser et d'être creusées un jour, en tout cas.
Question pour moi?
Non, c'est ouvert.
Il y a quelques critiques dans la salle qui vont sûrement intervenir.
Non, parce que si on prend Bestiaire, par exemple...
En fait, je voudrais revenir sur la notion de continuité. Pour moi, la notion de renouveau n'est pas tant importante parce qu'effectivement, je suis Gilles sur cette idée de la continuité. Ce qui est amusant, c'est quand il parle de continuité, évidemment, il fait toujours une continuité avec les années 60-70 et ça s'arrête à 1980, Mankiewicz. On a parlé très brièvement de Denis Villeneuve et Manon Briand, mais pour les évacuer aussitôt. Donc, si on parle de renouveau, c'est plutôt d'une certaine force local, mais aussi international, avec tous les prix, donc un cinéma qui tout d'un coup est vu ailleurs et qui parle aussi d'ailleurs aujourd'hui. Et alors qu'il a été absent ou quasi absent des écrans internationaux à partir des années 80. Deux exceptions notables, la vidéo d'art, et là je rejoins Guillaume, l'animation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très très peu de fils qui vont... je veux dire, il va y avoir une coupure... à partir de la fin des années 70, pratiquement jusqu'en 2005. Par contre, moi, je vois deux chaînons, donc pas manquants, en fait, et je trouve intéressant de les mentionner là, c'est Robert Morin. Parce que Robert Morin, pour moi, est le chaînon entre le cinéma direct, c'est-à-dire en fait le passage du cinéma direct en fiction, comme Gilles en a souvent parlé dans la pollinisation, je crois, du direct, et Denis Côté. Et quand je parle de continuité, en fait, je parle de véritables héritiers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la même chose, mais ils ont détourné à leur profit, dans leur société, les techniques et l'esprit du direct. Et l'autre que je voudrais convoquer, qui n'est pas souvent cité comme cinéaste, c'est Robert Lepage. Parce que son premier film, Le Confessionnal, me semble intéressant justement parce qu'il y a un grand absent dans Le Confessionnal, c'est La Révolution tranquille. Et La Révolution, parce qu'en fait, on passe des années 50 à aujourd'hui en oblitérant totalement La Révolution tranquille. C'est-à-dire que pour Lepage, en fait, on est passé d'un confessionnal à l'autre, d'une certaine manière. Et ça, c'est intéressant parce qu'on dirait qu'on revit un petit peu la même chose. Pour moi, dans Laurenci, en fait, la convocation de La Révolution tranquille, ou en tout cas des grandes lignes de La Révolution tranquille, aussi noire soit-elle, hein, puisqu'on s'attend à un pays qui s'annonce alors que ces lignes sont extrêmement graves et bon, mèneront à des suicides, et ainsi de suite. Ou le renouveau littéraire chez Anémon, qui me fait plus penser aux nouvelles milieu de nuit et ainsi de suite, me semble intéressant parce qu'effectivement, il y a un retour du littéraire, mais en passant effectivement par quelque chose d'extrêmement politique. C'est-à-dire que dans les années 60, un des premiers films du jeune cinéma dans les années 60, donc Denis Héroux, Denis Arcand et compagnie, c'est Seul contre tous. Et aujourd'hui, en fait, une grande partie du cinéma que vous avez décrit, c'est Seul au monde. Pourquoi ? Parce que politiquement, en fait, il y avait un pays à faire et puis là, il y a un pays d'effet, quoi, d'une certaine manière. Donc pour moi, la politique rentre par ce biais-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce cinéma-là... Alors, je veux dire, stylistiquement, vous avez raison de ramener depuis Antonioni, mais le problème, c'est que c'est juste du style. C'est-à-dire que le style, s'il ne s'appuie pas sur une politique, ne rime à rien. Alors que pour moi, aussi bien dans le cinéma de l'enfermement, effectivement, je trouve que la mise en scène de Denis Côté, c'est une mise en scène de l'enfermement. Les lieux sont clos jusqu'à Bestières, Saint-Zoo. Mais je veux dire, dans le Volcao, c'était des autoroutes qui ceinturaient un pays de western et ainsi de suite. Entre les deux, en fait, entre ce pays à faire et ce pays à défaire, il y a un cinéma qui prend des risques pour nous demander de réagir parce que eux, au moins, ont réagi en faisant ces films-là. C'est rien, je ne sais pas pourquoi j'ai raconté tout ça.
Je me suis perdu. Hein.
Et merci.
Je voudrais juste ajouter, je ne sais pas moi si on parle de l'enfermement, mais si finalement cette notion d'enfermement n'a pas toujours été là. En termes de continuité, moi, quand je vois le film d'Anémon, ça me fait penser par exemple, parce que ça emploie essentiellement la figure du monologue, plus que la figure du dialogue. Moi, ça me faisait penser aux pièces de Michel Tremblay, d'une certaine façon, c'est-à-dire même si le contexte est complètement différent, bien sûr, il y avait toute la question de la question nationale, de l'affirmation nationale au niveau des pièces de Tremblay et tout ça, mais en même temps, c'est un monde extrêmement clos sur lui-même, avec des personnages qui sont dans un enfermement épouvantable à cause des conditions de l'époque et tout ça. Mais cet enfermement-là me semble une constante de l'imaginaire québécois, c'est-à-dire qu'on le retrouve partout et que c'est pas un hasard pour moi que par exemple Simon Lavoie adapte Le Torrent par exemple et tout ça, parce qu'on retombe dans l'espèce de roman incestueux de la famille québécoise et tout ça. Donc je pense que dans tout ça il y a une cohérence, il y a quelque chose qui s'inscrit dans la continuité. Puis une autre remarque que je voulais faire, c'est par rapport au politique. Moi, il me semble que le politique est quand même toujours là en creux. Là, je veux dire, on n'a pas parlé, par exemple, du film de Simon Galliero. On n'a pas parlé. Bon, Bernard Raymond, c'est sûr que c'est plus le nouveau cinéma québécois, mais en même temps, le cinéma de Bernard Raymond pose des questions essentielles sur le terrain politique, même si il est aussi sur un terrain plus spirituel. Moi, je trouve que le cinéma de Simon Galliero et le cinéma Le Vendeur aussi reste ancré dans un terrain politique. C'est vrai qu'il y a une atomisation de l'individu, comme disait Bruno, mais en même temps, ce personnage-là, il est comme la victime d'un capitalisme qui l'a complètement dévoré de l'intérieur. Donc il y a toujours, à mon sens, dans certains de ses films, quand même, la dimension politique qui est là en creux.
J'ajoute, il y a une autre dimension aussi dont on n'a pas parlé, et je crois que c'est fondamental, c'est la question de la technique. Parce que ce qui a fait aussi l'identité d'un certain cinéma québécois, c'est le cinéma direct, grâce à la portabilité donc, des caméras à l'époque. Aujourd'hui, le passage au numérique permet finalement à tout un chacun presque de faire un film. Et ce dont on n'a pas parlé, mais dont on peut parler aussi, c'est l'influence de Kino. Kino, qui est un mouvement donc depuis plusieurs années, dans lequel des jeunes cinéastes produisent des films à très peu de frais, avec de l'équipement qu'ils ont dans leur chambre à coucher, dans leur sous-sol, ou peu importe. Donc, est-ce que le nouveau cinéma québécois aussi a beaucoup à voir avec ces nouvelles techniques numériques-là? Est-ce que ça permet pas d'influencer le style ou la démarche artistique actuelle des jeunes cinéastes?
Il y a deux facteurs pour élargir la discussion. Il y a deux facteurs qu'on peut prendre en compte pour expliquer l'émergence de ces nouvelles voies qui en plus produisent beaucoup. Un soutien des institutions, notamment via le programme de jeunes créateurs de la SODEC, qui a vraiment permis un grand nombre de ces cinéastes-là de faire des courts-métrages sans compromis, vraiment d'auteurs purs et durs. Effectivement, l'influence de Kino, j'en suis un peu moins certain là tout de suite, parce que je ne vois pas nécessairement de cinéastes issus de Kino. Je veux dire, oui, d'accord, La Fleur y était un petit peu au début, mais Denis Côté a fait un film à Kino juste pour le principe. Raphaël Ouellet en a fait un aussi. Leur influence, je ne pourrais pas la déterminer actuellement. Je veux dire, la seule personne vraiment connue sortie de Kino, c'est Christian Laurence. Il fait des films pour enfants. Pour l'instant, je ne suis pas certain. Par contre, c'est sûr que le numérique, ce qui permet, c'est que le numérique allié à un certain changement du point de vue des institutions permet de financer un certain type de film de façon peut-être un peu plus simple. Des cas comme Laurency ou Joe pour Jonathan, on a deux films qui ont été financés en bonne partie avec une bourse du Conseil des Arts. Ça facilite de tourner en numérique quand on reçoit une bourse du Conseil des Arts, parce que sinon on va quand même pas très loin. Et ça, c'est vrai que les deux mis ensemble expliquent quand même que ces films-là peuvent se faire. Après, le risque, c'est actuellement la division de plus en plus marquée entre cinéma commercial et film dit d'auteur et ou de festival, qui est assez frappante. Et c'est vrai que du point de vue institutionnel, les messages sont assez peu clairs entre le sous-financement de la Cinémathèque québécoise, l'attribution d'un financement pour Les Boys, le prequel, la suite, sans réalisateur. Donc, d'un côté, on a le programme Jeunes Créateurs, on a via le numérique un accès plus facile à la production qui favorise un certain type de cinéma un peu plus exigeant. D'un autre côté, on a l'exemple extrême inverse. Et du point de vue du cinéma de genre, dont vous parliez tout à l'heure, mais ça c'est assez représentatif aussi de l'état actuel, effectivement, où on a une division marquée entre cinéastes de festival et films de genre merdiques. C'est assez frappant. Je veux dire, les films de genre québécois, c'est ça. Le sens de l'humour... C'est atroce. Remarquez, c'est pas nécessairement mieux en France, hein, mais de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de cinéaste de genre majeur québécois, il me semble, actuellement. Quand on va dans le commercial, on va vraiment dans le bas de gamme. C'est pour toujours les Canadiens. La situation semble extrêmement encore plus divisée qu'elle ne l'était à l'époque. Mais ça, c'est valable sur la scène internationale. Je veux dire, maintenant, on a véritablement deux types de cinéphilie. On a les films qui ne font carrière qu'en festival et les films qui ont une carrière commerciale. Et c'est vrai que ces cinéastes-là, ce contexte-là, joue énormément dans leur choix. C'est-à-dire ils le savent très bien, ça. Quelque part, ça peut peut-être partiellement les libérer du point de vue de leur décision créatrice. C'est-à-dire, certains doivent se dire, de toute façon, moi, mon truc, il ne passera qu'en festival. Donc, autant y aller, autant y aller radicalement, parce que mon espoir d'avoir une diffusion commerciale est plus que limité, pourquoi pas. Et comme maintenant on a Téléfilm Canada qui annonce qu'ils vont prendre en compte la performance en festival, quelque part, tant mieux. En même temps, ça demeure, on peut dire tant mieux, en même temps, ça demeure un peu... ils font l'autruche, quoi. C'est-à-dire, parce que le problème fondamental qui demeure qu'on a une culture à 100% subventionnée par l'État, qui vous prend par la main à partir de la première ligne de synopsis jusqu'au montage final et qui après vous dit « débrouille-toi », il n'y a aucune vision à long terme d'un point de vue institutionnel quant à la promotion des œuvres. Ils sont laissés à eux-mêmes. Dès qu'ils ont terminé, finalement, on les prend comme des enfants, et dès qu'ils ont terminé leur film, c'est bon, allez, débrouille-toi. Et ça, il y a probablement beaucoup de choses à changer là-dessus, pour changer de sujet.
En fait, c'est certain que ça radicalise les pratiques. Il y a beaucoup de choses. En fait, Bruno vient de dire beaucoup de choses, mais moi, j'insisterais peut-être sur le fait que le numérique permet effectivement de radicaliser les pratiques ou également d'éviter un nombre considérable d'intermédiaires pour rejoindre des spectateurs, même si ces spectateurs ont tendance à être de plus en plus limités. C'est clair que, ayant ça en tête, on est souvent un peu coincé avec le cinéma lorsqu'on parle de diffusion. Et on a du mal à voir à long terme. Donc, d'une part, les cinéastes ne trouvent pas nécessairement leur public lorsqu'ils font des films un peu radicaux, tournés en numérique ou pas d'ailleurs, et qui circulent simplement dans les festivals. Mais ça, c'est à court terme. Est-ce que dans 10-15 ans, cette liberté-là n'aura pas profité un peu à tout le monde, si on essaie d'anticiper sur la valeur patrimoniale des films qui se font? C'est une chose... qu'on peut considérer, qui n'est pas négligeable, qui se considère de manière courante dans le milieu de la littérature, mais qui fait toujours problème avec le cinéma.
Alors, je ne sais pas si d'autres personnes auraient des questions ou des commentaires. Monsieur Marcel.
On peut juste ajouter qu'effectivement, la miniaturisation des techniques et le recours au numérique, évidemment, je dirais, permet en quelque sorte la permanence du cinéma artisanal, entre guillemets, qu'on peut identifier au cinéma d'auteur, au cinéma qui requiert évidemment beaucoup moins d'argent au niveau de la production, avec évidemment l'obligation du fait du mur qui s'oppose au niveau de la distribution, l'obligation de trouver de nouveaux réseaux de diffusion. Mais au niveau évidemment, si on rapprochait du niveau formel, c'est le numérique est aussi extrêmement important dans la mesure où il permet enfin d'explorer beaucoup la notion de plan-séquence. Vraiment, là, c'est vraiment une exploitation fantastique du plan-séquence qui amène évidemment de nouveaux contenus, de nouvelles façons de dire, une nouvelle narration. Et ça, c'est extrêmement important. Et là, évidemment, là aussi, c'est un acquis du direct. Bon. Mais oubliez ça, c'est une parenthèse. Globalement, ce qui se passe au niveau du numérique, c'est effectivement cette possibilité inouïe au niveau du plan-séquence. Et là, ça rejoint la relation avec l'acteur aussi. Moi, je suis un peu fatigué de voir toujours les mêmes acteurs au cinéma. Et il y a quelques-uns de ces cinéastes-là qui ont utilisé des acteurs qui sont fabuleux au théâtre et qu'on voit assez peu au cinéma et qu'on aurait intérêt à revoir beaucoup plus. Je pense, par exemple, à Benoît Gouin, qu'on a vu dans, rappelez-moi les titres. Hein?
Jaloux.
Oui, Jaloux, bon, effectivement. Il y en a d'autres, là. Moi, je suis bien mal pris. Bref, il y a deux ou trois acteurs comme ça qui ont été révélés par ces jeunes réalisateurs, par ces nouveaux réalisateurs, et que le cinéma aurait intérêt à exploiter davantage. Et je mets ça en relation, évidemment. Il y a aussi Robert Morin qui a repris François Papineau. Bon. Et c'est extraordinaire parce que, voyez, Robert Morin, papa est à la chasse au Lagopède, la relation qu'il y a entre le cinéaste et cet acteur, c'est fabuleux. Ça devient une étude d'acteur, donc de la relation. C'est un tout petit film que personne n'a vu. Je pense qu'il y a 400 personnes qui l'ont vu. Mais donc là, il se passe quelque chose de fantastique entre donc, cette idée du plan-séquence dans la relation avec l'acteur qui oblige l'acteur à se renouveler et qui oblige les cinéastes à trouver de nouveaux acteurs autres que ceux qui ont été formatés par la télévision. Par la télévision surtout. et donc à récupérer leur talent qui vient du théâtre pour en faire autre chose. Alors, bon, il y a autre chose, évidemment, beaucoup qu'on pourrait... ça change évidemment tout le rapport à l'espace-temps, le montage, etc., mais là, c'est une autre discussion.
Donc, merci, M. Marcellet. Le temps avance, le temps file, et ce sera bientôt donc l'heure de conclure cette causerie. Donc, je ne poserai pas d'autres questions. Il y en avait une qui me trottait dans la tête. Qu'est-ce que le cinéma national est devenu aujourd'hui? Mais là, ça ouvrirait sur bien d'autres voies de discussion. Et on ne fera pas l'économie, donc, de cette question du nouveau cinéma québécois. En fait, on ne pourra pas tout à fait y répondre ce soir. Qu'est-ce que le nouveau cinéma? Qu'est-ce que le renouveau du cinéma québécois? N'empêche, je crois qu'on a mis comme ça sur table de nouvelles pistes de discussion et puis donc ça suscitera évidemment d'autres discussions à venir, c'est clair. Donc je voudrais remercier encore une fois Gilles Marcellet, Bruno Dequesne et Guillaume Lafleur de s'être prêté à cet exercice. Et merci donc au public d'être venu nous écouter, écouter nos intervenants ce soir. Merci.